Hello, chers auditeurs de Leader Magnétique, le podcast du blog de parrainage magnétique qui vous aide à devenir des pros du marketing de réseau. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Olivier Parent, riche d'une expérience réussie en MLM et que j'interroge sur l'avenir du métier. Est-ce que le MLM va évoluer? La multiplication des business en ligne n'est-elle pas la nouvelle concurrence du marketing de réseau? Cela va-t-il compliquer, voire freiner les pratiques de parrainage? Et si finalement, le MLM possédait des avantages qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Et comment ne pas mentionner ChatGPT, qui fait plus irruption dans le débat public que dans la réalité concrète des usages professionnels? Alors, écoutons Olivier. Hello Olivier, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Olivier Parent. Alors oui. Olivier Parent, si je devais le présenter en une phrase, c'est quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans le marketing de réseau, on dit aussi le MLM, et aujourd'hui tu en vis même bien. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu as eu de multiples expériences avec des sociétés différentes. Et une question principale que j'aimerais qu'on aborde tous les deux, si tu veux bien,
oui,
c'est selon toi, selon ton parcours, est-ce que le MLM va continuer de se transformer parce qu'il s'est transformé ces dernières années? Et comment tu vois un peu arriver les choses?
Je pense que c'est une nécessité qu'il se transforme. Alors, transformer ou évoluer, on ne va pas faire de sémantique. Hein. On n'est pas à une conférence MLM pour vendre ça. Mais je pense qu'on est dans une période où, d'un côté, Internet permet de plus en plus de gens et de plus en plus de manières différentes de gagner de l'argent. Donc on est confronté à une concurrence qui n'existait pas avant, il y a 15 ans.
Oui.
On pouvait développer une activité tout seul et qu'on n'était pas ingénieur en quelque chose ou qu'on n'avait pas une grosse compétence technique. On n'avait pas beaucoup de choix. Et le marketing de réseau était la seule solution. Maintenant, on propose tout, souvent n'importe quoi. Et justement, face à ces nombreux n'importe quoi qui arrivent, il faut qu'on retrouve une sorte de position plus, un peu plus sérieuse, en éliminant d'un côté tous ces faux semblants de manière de gagner plein d'argent rapidement, facilement, qui se veulent souvent du MLM. Et puis en plus, les évolutions des gens évoluent. Et je pense que du coup, on a besoin d'autre part de trouver une nouvelle manière d'intéresser les gens et donc de vendre, entre guillemets, le marketing de réseau, de le développer.
C'est vrai qu'il y a eu une multiplication des business en ligne, des moins sérieux jusqu'à les plus ambitieux. Et parmi les moins sérieux, on a des choses comme gagner un SMIG en répondant à des sondages. Donc, c'est beaucoup de choses, ce qui fait que ça peut dévaloriser le potentiel du marketing de réseau. Et en même temps, on a des business en ligne qui sont quand même, qui tiennent la route. Donc là, il y a une concurrence qui est là. Mais en même temps, ce qu'on ne voit pas, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que le marketing de réseau a quelques avantages qu'on trouve nulle part ailleurs. Et je vais prendre un exemple. C'est qu'une fois tous les deux, on est bien passé pour le savoir, parce que c'est ce qu'on vit, hein. Une fois qu'on a monté un réseau, avec une certaine maturité, c'est-à-dire avec des gens avec des leaders au sein du réseau, avec de vrais produits qui font que, les consommateurs reconsomment régulièrement, on a une stabilité et on a, alors moi j'aime pas dire des revenus passifs parce que c'est une définition très précise par rapport au monde de la finance, mais on a des revenus récurrents qui peuvent durer des années et des années, et en travaillant très peu finalement. On voit pas ça avec d'autres business en ligne, parce que il faut quand même travailler, et si on travaille pas tant que ça, parce que beaucoup de gens en ligne disent finalement ne pas travailler, ils font référence au célèbre livre de Tim Ferriss, je ne sais pas si je prononce bien, la semaine de 4 heures. En réalité, oui, ils ne travaillent pas eux, mais ils délèguent. Donc, du coup, ils ont la responsabilité de payer des gens. Et pour terminer sur ce que je veux dire, c'est que c'est ça, en fin de compte, l'avantage du marketing de réseau, c'est qu'on a, on a cette possibilité de créer un vrai levier de chiffre d'affaires qui peut durer comme ça très très longtemps. Et parfois, quand tes réseaux sont très importants, c'est littéralement transgénérationnel, ça se transmet de génération en génération, à condition que l'entreprise, elle dure évidemment.
Ouais, je suis d'accord. Enfin, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose comme juste tout au début, tu disais, il y a d'autres activités très concurrentielles qui réussissent. Oui, évidemment. De même qu'il y a des gens qui réussissent très rapidement au marketing de réseau. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier quelque chose et que ces autres méthodes alternatives cachent plus que nous parce que justement, elles surfent, pour utiliser un terme à la mode, elles surfent là-dessus. C'est cette idée de faire croire que tout le monde va réussir. Là, on voit l'intelligence artificielle qui arrive et on a les trucs sur comment gagner plein d'argent en faisant des images gratuites et puis en les mettant sur des t-shirts et en les vendant sur des t-shirts et ta boutique va faire 2000 ventes. Oui, moi demain, je peux faire effectivement des t-shirts en marque blanche comme ça n'importe où en 3 minutes. Seulement, combien de temps il va falloir que je passe à trouver où passer les bonnes publicités? Parce que mon t-shirt, il va falloir que je le mette en avant quelque part. Et pour ça, il va falloir que j'ai une communication efficace. Donc, soit j'ai une grosse base de données, soit je fais de la communication. Et donc, j'ai tout un ensemble de choses qu'on cache aux gens et on leur fait croire sous prétexte qu'une personne a réussi, que tout le monde va pouvoir réussir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens sont dans ce business et puis arrivent en disant, tu vas voir, tu vas être tout seul, autonome, comme tu le dis, déjà, il n'y a pas de récurrence. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps sur la création. Et pourquoi pas? En soi, ce n'est pas un problème, il faut juste le savoir. Quand on a l'esprit créatif, au contraire, c'est ce qu'on recherche, donc c'est pas un problème. La seule chose, c'est que ce qui est faux, c'est qu'on réussit tout seul. Parce que très rapidement, je prends l'exemple de quelqu'un que je connais personnellement, qui a réussi un peu sur TikTok à vendre des conférences en ligne, etc., et puis à vendre un bouquin qu'il avait créé. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché une community manager. Et il est plus tout seul. Alors après, je veux bien qu'il dise à tout le monde, regardez comme j'ai réussi tout seul. Mais c'est faux, c'est un mensonge, un mensonge littéral. C'est-à-dire que il a peut-être mis, alors, non pas qu'il a créé les éléments de la réussite tout seul, mais très rapidement, on se retrouve avec une structure. Alors on veut pas dire, moi je suis patron d'une entreprise parce que ça fait ringard pour les gens qui veulent dire je réussis tout seul. N'empêche que quand on a trois entrepreneurs, un gars même qui travaille sur des sites, tu sais, où on prend quelqu'un pour 1 heure ou pour 2 heures pour faire un truc, on a non pas des salariés, mais on a des gens. Comme tu le disais, des gens avec lesquels on travaille. Donc, on a une équipe de gens qu'on rémunère. Et c'est plus regarder comme je réussis tout seul et comme je suis indépendant à ma piscine. Donc, il y a un faux semblant aussi sur la réussite individuelle et on veut tout simplifier à outrance. On veut faire croire aux gens que tu vas sur Midjourney, tu fais générer un petit chaton mignon en 3 couleurs, tu le mets sur un t-shirt blanc et pouf, tu vas faire 3000 ventes. Non? Les experts de Midjourney, les experts de la vente, les experts de l'emailing, eux vont réussir à le faire. Mais toi qui débutes, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est acheter des formations sur Midjourney, et là, merci pour les formateurs vont gagner de l'argent, et acheter des formations sur comment envoyer des emails, et là, eux vont gagner de l'argent. Acheter des formations sur comment passer des annonces publicitaires efficaces sur Google ou ailleurs, eux vont gagner de l'argent, mais pas toi. Et donc, il y a une croyance dans ces univers, qui fait que beaucoup de gens pensent que le marketing de réseau, en fin de compte, c'est trop compliqué. Et que là-bas, c'est beaucoup plus simple, j'ai juste à faire un petit chaton, hop, je le mets sur un t-shirt et ça va marcher. Et nous, il faut vendre, il faut développer des équipes, etc. Mais en fin de compte, quand on prend un peu de recul, au final, on est dans la même situation à peu près, c'est-à-dire que au début, on gagne de l'argent tout seul, c'est quand même la base du marketing de réseau, je gagne de l'argent en vendant des produits, ou des services, peu importe. Et après, je développe une équipe. Mais cette équipe, je dois la manager. Je dois m'en occuper. Je ne suis pas là en rêvant qu'il y ait des gens qui vont rentrer et puis qui vont travailler sans que j'ai rien à faire. Enfin, c'est le fantasme de tout le monde. Hein. Évidemment, moi aussi, j'adorerais avoir des gens, tu les fais signer, après tu ne fais plus rien, ils te ramènent de l'argent. Mais ça, c'est la définition d'un fantasme, quoi. Ça reste un fantasme. Et je pense que le marketing de réseau a cet avantage, c'est que il est suffisamment ancien pour avoir quand même assez bien structuré tout ça, pour avoir assez bien équilibré tout ça, et que du coup, tu es dans un système qui, à moyen terme, au sens financier du terme, est assez équilibré. C'est-à-dire, tu arrives à créer quelque chose de solide. Mais néanmoins, je pense que ça reste encore pour les gens très complexe. Parce que, un, les autres simplifient à l'outrance, et que nous, on n'arrive pas à simplifier notre activité. En tout cas, dans sa présentation, dans sa forme. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question,
Si,
mais tu es habitué.
si, en fait, ce que tu exprimes, c'est qu'il y a une tendance à être dans des univers micro-ondes. Ça veut dire qu'on veut tout tout de suite, sinon rien. Et c'est vrai que tous les vendeurs de rêves, les marketeurs en herbe ou professionnels tablent là-dessus. Et ça marche puisqu'ils font comme ça de l'argent. Mais en même temps, c'est mensonger parce que la réalité est quand même différente. Il faut quand même acquérir des compétences, il faut laisser le temps au temps et faire des expériences, tester les choses et au bout du compte, travailler avec sa propre approche, sa propre méthode. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de la réussite des autres, c'est sûr, mais en même temps, il faut arriver à trouver sa propre approche. Et ça demande du temps. Ça se fait pas en
Ouais.
7 jours.
Tu sais, il y a quelque chose qui est amusant, mais c'est pareil. Moi, j'ai l'impression de revoir un peu l'univers du coaching qui réapparaît dans une nouvelle période, parce que le temps n'est pas le même. Mais aujourd'hui, si demain j'ai un formateur qui veut me vendre une formation sur comment réussir à prospecter en marketing de réseau grâce à l'intelligence artificielle sans avoir besoin de chercher des prospects, je sais que dans 90% des cas, et encore je suis très optimiste hein, ou très pessimiste, ça dépend comment on voit les choses, 90% des cas, c'est un gars qui a acheté lui-même une formation ailleurs, qui revend, mais que lui-même n'a jamais trouvé de prospect pour lui-même. Et si je lui pose la question, est-ce que l'outil que tu vas me vendre, toi, tu l'utilises au quotidien et tu peux me montrer les résultats que tu as pour ta propre activité? Il va être incapable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont en échec. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils t'apprennent, ils ne savent pas le faire. Ils se sont dit, bah, comme je ne sais pas faire, ça part d'une bonne intention, je vais me former à ça. Et d'un seul coup, on leur fait comprendre, parce qu'il y a de l'affiliation, qu'en fin de compte, plutôt que de s'embêter à essayer de trouver des prospects pour son propre business, si je revendais tout simplement la formation à d'autres, en leur disant, la méthode est géniale. Mais même moi, je ne l'ai pas utilisée, évidemment, je n'ai même pas essayé. Je me rends juste compte que c'est plus facile. Et on se retrouve avec des gens qui te vendent des formations ou qui copient des formations d'autres hein, en changeant trois titres et puis machin, voire qui les traduisent juste en français, mais qui eux-mêmes sont absolument incapables et n'ont même jamais essayé et ne veulent pas essayer, parce qu'en plus ils se confronteraient à l'échec qu'ils ont eu jusqu'à présent, à ces situations. Et on se retrouve avec des formateurs qui te vendent du vent. C'est-à-dire que demain ils pourraient te vendre n'importe quoi, de toute façon ils ne sont pas plus compétents. Ils ont juste appris. Le vocabulaire, comme demain, si je te donne un livre à lire, tu peux le lire et les gens vont dire waouh, il s'y connaît. Ben oui, tu lis un livre. Ferme le livre et maintenant, aide-moi. Ah, là, c'est différent. Je pense qu'on est là-dedans, dans cet univers. Et c'est un peu ce qui fait écho d'un autre côté, effectivement, à ce besoin d'immédiateté. Les gens ont l'impression que je suis un loser si j'ai pas réussi à gagner de l'argent en 2 mois.
Ouais, c'est ça.
Souviens-toi, Jean-Philippe, il y a, allez, on va faire comme si on était vieux. Quand on était jeune, quand on nous parlait de créer un business, on nous disait, pendant 1 an, tu ne vas pas gagner d'argent. Au mieux, tu vas réussir à payer tes frais. Pendant 1 an ou 2, tu vas équilibrer tes comptes et après, tu vas commencer à te payer. Moi, j'ai un ami qui est dans l'intelligence artificielle, qui a une société qui a levé plus de 100 millions de dollars d'argent en 1 an et demi. Donc, c'est 100 millions, pardon. C'est pas mal, 100 millions de dollars d'enlever de fonds. Il ne gagne toujours pas d'argent. Il ne se paye toujours pas.
Oui, c'est vrai. Moi qui anime beaucoup d'ateliers de création d'entreprise en dehors du MLM, je dis ça souvent à mes élèves, c'est que si tu présentes un dossier à un banquier où tu gagnes des 1000 et des 100 dès la première année, ça va faire suspect. Donc faire attention. Mais c'est vrai que ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre parce qu'on est dans ce schéma psychologique du salarié qui est que dès le premier jour travaillé, c'est un jour payé. Et mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça, évidemment.
Ben oui, mais c'est pour ça que tu en as beaucoup qui se lancent, et notamment en marketing de réseau, tu les reconnais, hein, parce que c'est ceux qui arrivent et qui vont voir leur upline en disant « qu'est-ce que je dois faire ?»« Je vais être indépendant, mais dis-moi ce que je dois faire. » C'est paradoxal quand même. Ah, mais j'ai pas fait grand-chose cette semaine, mais c'est de la faute de mon parrain, il me dit pas quoi faire, sa méthode elle est pas bonne. On s'en fiche de sa méthode. T'es entrepreneur ou t'es pas entrepreneur? Et je pense qu'effectivement, on est dans ce paradoxe, alors que le marketing de réseau, je pense que si on l'envisage avec sur le long terme, avec une posture, j'allais dire, sérieuse, à savoir, oui, je vais faire des choses que j'aime pas faire. Parce qu'en plus, on est beaucoup dans cette croyance, c'est que si je me mets à mon compte, c'est pour faire ce que j'aime. Et uniquement ce que j'aime. Va dire ça à un salarié le jour où son comptable l'appelle, à un indépendant. Je connais pas beaucoup d'indépendants qui aiment regrouper leurs factures, tout donner à leur comptable. C'est une galère pour eux. Mais ils le font quand même. Et nous, ah oui, mais moi, j'aime pas vendre, donc je vais faire du marketing de réseau, je vais rien vendre. Parce que je vais trouver des partenaires qui, eux, vont vendre. Hein? Le rêve, encore une fois. Bah, oui, d'accord. Mais voilà, créer, appelle-toi Jacques Desanges, dis-toi que t'aimes pas couper des cheveux, que tu veux pas couper des cheveux, et ouvre des franchises. Ça va pas marcher. Hein? Bah oui, ça marche pas. Une fois que tu t'appelles Jacques Desanges et que tout le monde sait que tu coupes bien les cheveux, tu peux t'arrêter de le faire. Et c'est le principe du marketing de réseau. Quand tu sais te débrouiller tout seul, et ça on ne veut pas le dire parce que ça prendrait trop de temps, mais si tu es capable de te débrouiller tout seul, apprends aux autres à le faire. Et si tu apprends aux autres à se débrouiller tout seul, bah dans une structure habituelle, bah ils seront obligés de changer complètement la structure pour pouvoir évoluer. Un indépendant va être obligé d'ouvrir un cabinet, de changer de locaux, de changer de statut juridique, de faire de prendre plein de nouvelles organisations. Chez nous, c'est intrinsèque au développement du marketing de réseau. Mais si tu réfléchis le marketing de réseau comme ça, bah je me débrouille pour être autonome. Et puis après, je vais juste apprendre à quelqu'un à être autonome. Tu t'aperçois que tu crées des gens qui peuvent fonctionner tout seuls. Donc déjà, tu vas limiter les gens qui vont rêver de « je vais avoir des équipes qui vont gagner plein d'argent pour moi ». Tu vas limiter les gens qui veulent rien faire, parce que dès le début, tu vas pas leur vendre le business comme ça. Tu vas te retrouver avec des personnes qui, du coup, vont rester plus longtemps, puisqu'elles sont autonomes, qui vont pouvoir mieux former les autres. Donc, tu vas améliorer ton taux de rendement, et donc tu vas gagner plus rapidement et plus vite. Mais si tu penses à gagner plus rapidement, plus vite, tu te plantes. C'est pas réversible comme logique.
Est-ce que tout ça va pas avec l'époque dans laquelle nous sommes aussi bouger un peu parce que le marketing du réseau est obligé d'intégrer les révolutions en cours et je pense notamment aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que on peut se passer des réseaux sociaux. Quoique, on peut toujours réussir sans les réseaux sociaux, mais c'est quand même plus compliqué, il me semble, hein. Surtout quand il y a des confinements sanitaires. Et maintenant, on a autre chose qui arrive, c'est les intelligences artificielles, je dis bien les, s'il n'y a pas que ChatGPT. Est-ce que tu ne vois pas se dessiner un nouveau MLM, un nouveau marketing de réseau, qui va finalement devenir créatif? C'est-à-dire que le challenge qui va se profiler pour nous tous, c'est qu'on va devoir être créatif en ayant une communication réseau social bien plus professionnelle et en nous aidant des intelligences artificielles parce que quand on veut vraiment communiquer massivement sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est chronophage et les intelligences artificielles permettent de minimiser un petit peu le temps qu'on y consacre et même nous professionnalise aussi en partie, je pense. Donc finalement, les marketeurs de réseau d'aujourd'hui, de demain matin, est-ce que ce sont pas, en tout cas ceux qui vont vraiment percer, ce sont pas ceux qui ont intégré à la fois les réseaux sociaux et à la fois les intelligences artificielles?
Je pense qu'il y a deux niveaux totalement différents. Pardon. Il y a, excuse-moi. Désolé de cette toux restante. Il y a l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles pour les entreprises de marketing de réseau et pour les distributeurs. Je pense que l'impact va être beaucoup plus fort pour les entreprises de marketing de réseau que pour le distributeur. Dans le sens où demain, une entreprise de marketing de réseau, parce que l'intelligence artificielle se base sur, à un moment, une analyse. Mais il faut faire une analyse de quelque chose ou une création de quelque chose. Et en marketing de réseau, une entreprise a évidemment beaucoup plus de données que nous. Donc demain, je pense que l'intelligence artificielle va permettre de créer parce que comme tu le dis, ça demande du savoir-faire. Donc il y a des gens dont c'est le métier de non pas de créer l'intelligence artificielle, mais de dialoguer avec. D'accord? C'est pas. Je veux bien encore qu'on soit dans le fantasme. Demain, je vais créer un outil merveilleux tout seul qui va faire conduire les avions tout seul dans le ciel. En disant à mon IA, fais voler mon avion, mais ça marche pas. Donc demain, je pense que, j'espère que les boîtes de MLM vont faire appel à des spécialistes, des professionnels, des ingénieurs ou autres, pour demander à des IA d'améliorer leur branding, leur marque, les nouveaux produits à sortir, d'améliorer leur communication, de créer, pourquoi pas, tu es dans une boîte qui vend des suppléments alimentaires. Pourquoi pas créer un outil, mais pas un outil que toi et moi on va pouvoir créer sur ChatGPT en disant fais-moi perdre 3 kilos, parce que ça, il n'y a pas besoin de ChatGPT, hein. Tu vas sur Google, comment perdre 3 kilos, tu trouves déjà 18 000 réponses différentes. Mais avoir une IA qui va proposer à tous les distributeurs de proposer à ses clients, en plus d'un prix du produit, de pouvoir avoir un suivi personnalisé sur 5 mois sur la perte de poids, géré par une IA. Mais tout ça demande une logistique et une connaissance du milieu qui fait que je pense que les entreprises de marketing de réseau vont le gagner beaucoup plus. Sans compter tout ce qui est logistique, gestion des flux, etc., où ils vont aussi gagner de l'argent. Donc je pense que pour les entreprises, il y a quelque chose à prendre. De même que créer un support de blog, enfin un support de chat pour pour les clients de la société, par exemple. Je fais rentrer un client qui achète un produit. Eh bien, il a une IA à disposition pour répondre à ces questions dans les domaines qui correspondent aux produits que je vais vendre. Donc, je pense que pour les entreprises de marketing de réseau, il y a et pour les réseaux sociaux, hein, pour toutes les applications liées à Internet, il y a énormément de choses à faire. Donc, j'espère qu'elles vont pas louper le coche. Je parle pas des sociétés qui vont créer un faux MLM basé sur une IA. Hein. D'accord,
Ah oui, tu penses que ça
je
va
mets
arriver?
Stable Diffusion sur un site, puis je te propose pour 15 euros de l'utiliser, et puis si tu fais rentrer quelqu'un pour de toucher 5 euros sur lui, enfin des conneries comme ça. Parce que ça, évidemment, ça va sortir demain matin, mais ça sera encore une grosse arnaque. Mais donc, premier niveau, les entreprises, le MLM. Et là, je pense que ça peut vraiment changer la donne pour nous, parce que non seulement on va pouvoir proposer un produit, mais il va être accompagné de choses auxquelles aujourd'hui on n'a pas accès. Quand je pense à ce MLM que je ne citerai pas, mais qui est ouvert, où maintenant pour y être, il faut presque être coach sportif, tellement le suivi sur faut faire des pesées, il faut faire des machins, faut faire des prises, il faut avoir une connaissance autre que la vente pure de produits, ça devient de plus en plus compliqué. Et ils s'enferment ils se sont fermés leur niche. Et donc, à part des sportifs ou des gens qui veulent perdre du poids, ils ne sont plus personne. Demain, j'ai besoin d'avoir aucune compétence pour faire ça si j'ai ma société qui a créé une IA focalisée sur cette problématique. Mais moi tout seul, je ne peux pas la faire. Ou alors je me mens si je me dis tout seul. C'est-à-dire que je vais payer un gars pour le faire. Donc c'est pas moi. Enfin, alors il y a toujours quelques leaders qui vont pouvoir le faire pour leurs équipes parce qu'eux, ils ont plein d'argent. Donc c'est pas un problème. Mais je trouve ça enfin, pas stupide. Pour moi, ce qui serait intelligent, c'est que l'entreprise le fasse. Après, le distributeur, je pense que c'est vraiment à double tranchant, quoi. Il y a celui qui va penser que c'est the solution, qui va foncer dedans, et pendant les 3 prochains mois, il va devenir un spécialiste de comment faire des dessins, comment apprendre les meilleurs scripts pour ChatGPT, comment apprendre à faire de la musique originale, comment à faire ceci. Puis de là, il va se prendre une autre formation. Enfin, le truc des formations qui servent à rien, mais qu'on a envie de faire pour en savoir un peu plus. Et ça va devenir un expert des outils d'IA, mais pas du tout un marketeur de réseau. Et plus il va devenir expert des outils de IA, moins il va faire de marketing de réseau, Plus il va se dire, ah bah tiens, si je faisais des formations sur comment utiliser les outils de marketing les IA dans le marketing de réseau, et c'est ceux qui vont nous vendre des formations sur comment utiliser l'IA dans le marketing de réseau, ceux qui n'en ont jamais rien fait, mais qui nous vendent des trucs qu'ils ont appris ailleurs. Donc pour moi, c'est le grand piège. Pour moi, la solution, elle est de se poser la question toute bête, c'est est-ce que j'en ai besoin? Déjà. Parce que je n'ai pas besoin d'IA pour communiquer la plupart du temps sur les réseaux sociaux. J'en ai pas besoin. Ou alors, c'est que j'ai rien à dire. Mais à ce moment-là, pourquoi je fais un métier où je dois communiquer si j'aime pas ou si je ne veux pas communiquer?
Ouais, c'est peut-être pas aussi simple que ça parce que il y a beaucoup de personnes qui ont de vraies inhibitions en communication. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se retrouvent quand même devant des espèces de pages blanches. Ça leur prend du temps de démarrer la description d'un poste, en tout cas un poste tout court. Ça leur prend du temps de structurer quelque chose d'intéressant. Et puis, ils n'ont pas forcément les idées. Alors que en interrogeant ChatGPT, on peut avoir là, instantanément des idées, puis desquelles bah, tu peux construire quelque chose, donc tu gagnes du temps. Et au final, on s'aperçoit que finalement, ChatGPT, même si c'est loin d'être parfait, c'est un instrument de productivité et de créativité. Et c'est un assistant, c'est un véritable assistant. Et je pense qu'on peut s'en servir de façon suffisamment intelligente pour produire beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux et finalement être plus présent.
Oui, enfin, je ne vais pas te dire le contraire. À partir du moment où on maîtrise la communication déjà, tu ne peux pas demander à ChatGPT de te remplacer dans un domaine où tu es mauvais et que toi, ça t'améliore. On va avoir deux catégories, mais c'est toujours la même problématique, elle ne change jamais. Hein. Et c'est ça que les gens ne veulent pas entendre parce que ce que je vais dire n'est pas du tout politiquement correct. C'est que ben, ceux qui sont instruits vont s'en sortir mieux que ceux qui ne sont pas instruits. Ceux qui savent écrire, déjà, écriront beaucoup mieux. Ceux qui ne savent pas écrire, bah, ils vont faire des trucs à ChatGPT qui sera des trucs de la ChatGPT qui ne vaut rien du tout. Et donc, le niveau des meilleurs va monter grâce à l'intelligence artificielle. Le niveau des moins bons va monter, mais les moins bons seront toujours moins bons que les meilleurs avant. Ça ne va rien changer au problème. Avant, ils étaient médiocres. Ils vont passer bons, mais ceux qui étaient bons vont passer excellents. Donc, ça ne va pas changer intrinsèquement le problème. Et ça peut même créer, et c'est là, à mon avis, où il y a un risque, c'est que une fois de plus, ça dépend dans quelle activité on est. Là, on parle de marketing de réseau. Moi, demain, je veux travailler avec toi. Puis je lis ton blog et je me dis, viens, ce mec, et il s'y connaît. Alors, je t'écris, tu me réponds, enfin, ton intelligence artificielle me répond. Puis à un moment, ben, pour signer, pour travailler pendant 5, 10, 20 ans avec toi, je veux te rencontrer. Ou alors, si t'es dans le fantasme de « moi, je rencontre jamais les gens », je vais te dire bah, « je passe à un autre ». Je parle de moi. Et à un moment, je vais te parler. Et si t'es complètement bête et que t'es incapable de répondre à la moindre question, parce que t'as rien compris à ce qu'il avait écrit dans tes articles, parce que c'est pas toi qui l'as écrit, et que t'as même pas fait attention à ce qu'il avait écrit, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils vont faire. D'accord ? Soyons honnêtes. Ils vont même pas vérifier les sources. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une telle dissonance entre toi et ton blog que je vais dire, bah écoute, je vais aller lire tes articles qui ne sont pas tes articles d'ailleurs, je vais vite le comprendre. Je vais aller lire les articles que tu fais rédiger par une intelligence artificielle ou un nègre avant, comme on dit, hein, c'est pareil. Hein. C'est exactement, ça ne rend pas plus intelligent. Et puis du coup, ça, tu ne vas pas être intéressant. Et je pense que la majorité des gens vont le faire comme ça parce qu'ils le font dans une optique d'en faire le moins possible.
Oui, parce que c'est sûr, moi je le dis aussi de temps en temps.
C'est provocateur hein, un peu, hein, donc je m'excuse auprès de l'auditeur qu'il le prendra pour lui, mais c'est fait exprès, enfin, c'est dans ce but-là. Hein.
Oui, non, c'est vrai qu'il faut superviser les IA, on ne peut pas leur confier 100% d'une tâche, et puis elles ne sont pas autonomes en tout cas, pas encore aujourd'hui, pas au stade où elles en sont, et sinon on serait arrivé à un point qu'on qualifierait de singularité, hein, c'est-à-dire que il y a totalement autonome qui fait véritablement tout à ta place. C'est encore pas aujourd'hui, c'est pas pour maintenant. Et moi, je pense aussi, je sais pas quel est ton avis là-dessus, c'est que les IA finalement vont faire le tri entre les vrais et les faux experts. C'est-à-dire que les vrais experts vont être beaucoup plus visibles, et les faux experts on va leur reprocher d'utiliser les IA.
Ben oui, mais c'est les mêmes qu'aujourd'hui, hein, qui, c'est ce dont je te parlais, qui n'ont jamais réussi à prospecter, qui ont fait 3 formations sur comment prospecter en marketing de réseau, puis du coup qui deviennent coach en comment prospecter en marketing de réseau. C'est les mêmes, hein. On a exactement toute cette flopée de faux experts, consultants, coachs, formateurs qui existent depuis maintenant 15 ans et qui vont se partir là-dedans. Et effectivement, on a des gens qui vont avoir des idées consensuelles et qui vont être juste dans l'eau tiède, donc ce que va proposer ChatGPT, et qui vont nous sortir des articles du genre « Pour bien prospecter en marketing de réseau, 1. Choisissez votre cible. 2. Définissez comment la trouver. 3. Communiquer. » Ouais, voilà. Et ils vont nous faire des articles comme ça. Et c'est génial, parce que c'est pas faux. D'accord? Mais une fois que je te dis ça, si je téléphone au gars et que je lui dis, OK, concrètement, comment je définis ma cible? Alors, ChatGPT, comment on définit une cible? Alors, 1. Trouve ton persona idéal. 2. OK, d'accord. Mais bon, hein, ça va pas m'aider beaucoup tout ça. Parce qu'en fin de compte, ça, je le trouve déjà partout. C'est déjà partout. C'est-à-dire ce que l'IA aujourd'hui nous propose est déjà partout. Le jour où l'IA peut faire tout à notre place, quel est l'intérêt pour une société marketing de réseau d'avoir des gens? Pourquoi ils vont dépenser de l'argent pour nous si on produit tous la même chose avec la même IA? Ça n'a absolument aucun intérêt. La société marketing du réseau va nous dire, bonjour, comme c'est écrit dans mes chartes, dans mes conditions générales, comme c'est le cas dans 90% des marketing de réseau, dès le mois prochain, nous passons en vente classique et nous fermons le réseau. Au revoir, monsieur, plus besoin de toi, on fait tout faire par nos IA. Parce qu'elles, on peut les mettre en permanence sur des robots, on peut les mettre en permanence sur Facebook, on peut les mettre en permanence sur TikTok, on n'a plus besoin de toi, mon gars. Et donc, on n'aura plus besoin de nous. Et ça arrivera certainement.
Est-ce que là, tu utilises ChatGPT, Olivier?
Oui.
Beaucoup?
À beaucoup, je sais, c'est très relatif. En fin de compte, je pars avec une idée. J'utilise comme la métaphore que j'utilise actuellement, c'est Google, ça nous permettait d'avoir accès à une banque de données importante. Un peu comme dans une bibliothèque, tu rentres dans la bibliothèque. Qui avant était physique, il fallait y aller, hein. Je sais pas si tu te souviens quand tu as fait tes études, mais quand tu te posais une question, tu n'avais pas un téléphone qui te répondait, hein.
Non,
Tu avais soit papa et maman parce qu'ils connaissaient la réponse, soit bah, tu téléphonais à tes copains, mais tu n'avais pas de réponse sur ton téléphone. Déjà, tu n'avais pas de téléphone. Donc là, maintenant, on a une bibliothèque dans la poche. Maintenant, avec ChatGPT ou d'autres, hein, Bing ou d'autres, on a le bibliothécaire dans la poche. Et c'est ça la différence. La bibliothèque, c'est juste l'information, le bibliothécaire, un vrai, hein, ou comme dans une petite librairie, le vrai libraire, qui dit, voilà, j'aurai un roman un peu comme ça, sur le 18e siècle, et va dire, c'est ce qu'il vous faut si vous aimez tel style littéraire. Et c'est la différence entre les deux. Mais il va pas t'apprendre à écrire un roman, le libraire, sinon il serait pas libraire. Et donc, pour moi, je l'utilise comme ça, c'est-à-dire que je me pose une question, et je me dis, est-ce qu'il existe, la dernière fois, je sais plus, je cherchais sur le coaching informel. Qui est une approche de coaching où en discutant. Et donc, je dis, est-ce que tu connais plusieurs théories sur le coaching informel qui existent? Il m'a dit, oui, il y a 3 grandes théories sur le coaching informel. Je lui dis, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la deuxième? Parce que c'est celle qui était le plus proche de mon approche de coaching. Donc, il m'a dit, bon, coaching systémique, voilà l'approche qu'il y a. Et donc, je me suis formé d'une certaine manière là-dessus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas écrire peut-être un article sur ce sujet? Peut-être que je vais demander quelles sont les questions les plus posées par rapport au coaching informel, pour trouver, puisque ça, c'est des réponses, une fois de plus, que je pourrais faire autrement. Mais par contre, ça sera à moi d'écrire les réponses. Sinon, ça n'a pas de sens. Si
Est-ce
je
que
suis
t'as...
incapable de comprendre ce qu'est le coaching informel parce que je l'ai appris, je ne peux pas en parler. Ouais, si, je peux en parler. Mais c'est ce que tu vas te dire, c'est le faux expert que l'intelligence artificielle interne de Google, Bing, etc., va déceler tout de suite. Que le lecteur expérimenté va déceler tout de suite et on va se retrouver, malheureusement, je suis le premier à ce que ça ne me plaise pas, avec toujours les mêmes strates, c'est-à-dire tout le monde va s'améliorer, donc ça ne va pas changer, ça ne va pas nous rendre meilleurs. À titre individuel, oui, mais pas proportionnellement. Si ce n'est pas ça qui va me permettre de sortir du lot d'un seul coup, puisque tout le monde va l'utiliser.
Oui.
Ou alors un court moment parce que j'utilise un petit peu avant les autres. D'accord. Mais enfin, intrinsèquement, ce n'est pas ça qui va me rendre meilleur. Ce qui me rend meilleur, c'est ce qui reste dans ma tête à ce jour. Sauf si je suis ingénieur en IA.
Alors, est-ce que pour terminer, Olivier, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui font du marketing de réseau et concernant les intelligences artificielles, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui leur soit utile?
Je dirais Peter Drucker, qui est un pape du management, c'est ce qu'il dit, est toujours d'actualité, pourtant ça date un petit peu maintenant. Il disait que le pire pour un manager dans une entreprise, c'était de se focaliser sur ce qui se passait dans son entreprise. Et je pense que l'IA est un moyen fabuleux pour nous permettre de prendre conscience de toutes les possibilités de notre univers, univers marketing de réseau. Donc, je pense que la première utilisation, c'est être curieux de ce qui se passe dans le marketing de réseau sur des nouvelles technologies, sur ce que font les autres, sur peut-être avoir des alertes quand il y en aura avec des IA sur l'univers du marketing de réseau. Quand on s'intéresse à la prospection, aller voir sur ChatGPT, est-ce qu'il peut te proposer des approches de tel type, etc., sur la prospection pour trouver ton propre style. Mais que ça reste encore un outil qui te permette de trouver un peu comme un mentor. Mais le mentor, il fait pas à ta place. Tu vois? Donc, que ChatGPT puisse être un mentor si tu débutes et que ça donne des idées. Mais après, c'est toi qui dois les mettre, c'est toi qui dois les mettre en œuvre. Et tu dois pas devenir une sorte de croyant que l'IA va faire ton job à ta place. Parce que le jour où t'as le gars qui va t'appeler, qui va dire, mais ta crème, elle va vraiment me retirer mes rides, ben, qu'est-ce que tu fais? Si t'es pas capable de répondre à ça sert à rien d'avoir la plus belle communication du monde. Sauf si tu veux pas faire du marketing de réseau, et que tu veux faire de la vente sur une boutique en ligne, des trucs comme ça. Mais, parce que c'est pas les mêmes métiers. Nous, on a un métier où l'humain est encore là. Le jour où on aura plus besoin de l'humain, on aura plus besoin du marketeur de réseau quand même. Faut se souvenir de ça. Nous, notre objectif, c'est pas que l'IA soit super puissante. Parce que le jour où c'est le cas, les entreprises MLM n'ont plus besoin de nous. Oui. Ne servira plus à rien puisque le relais qu'on fait, l'IA le fera à notre place. Et ça coûte beaucoup moins cher, une IA.
Eh oui. Merci Olivier, merci
Mais de
pour
rien.
ce partage et ben bonne continuation et pour nos auditeurs, au plaisir de continuer les discussions avec des spécialistes du marketing de réseau.
Merci à toi, Jean-Philippe.